Bienvenue sur le podcast Maman Sereine de Mouvement Épanouissement. Je suis Charlène Lepage, professionnelle de la santé et de la relation d'aide. Bachelière en kinésiologie, thérapeute et animatrice certifiée de la méthode Écoute ton corps, j'inspire les femmes et les mères à s'épanouir simplement et naturellement grâce aux saines habitudes de vie et à l'attitude sereine. Si tu veux recevoir chaque nouvel épisode directement par courriel, abonne-toi gratuitement en visitant le www.mouvementepanouissement.com/podcast. Bonne écoute! Le printemps avec cette belle saison 4, nouvelle saison avec nouvelle intention, un vent de fraîcheur qui s'installe et un premier épisode tellement riche dans lequel je vous présente la profession de sage-femme, cette option que j'ai choisie pour me faire accompagner dans ma grossesse, dans mon accouchement et bien sûr dans toute la transition de couple à parent que j'ai vécu avec mon amoureux dernièrement. Et justement, on a voulu faire une discussion ouverte à quatre. Alors non seulement on a la professionnelle sage-femme Dana qui est avec nous, mais son conjoint qui nous a fait le bonheur de se joindre à nous en tenant dans ses bras son tout nouveau-né Théo. Théodore qui est le troisième garçon de la belle famille que forment Dana et Nicolas ensemble. Et j'ai invité évidemment mon amoureux à se joindre à nous pour qu'on puisse parler bien, non seulement de cette approche-là, mais ce choix que font les parents d'avoir un suivi sage-femme dans leur grossesse, mais aussi dans la naissance de leur enfant, le lieu de naissance, l'implication du conjoint. On va parler d'autonomie, mais aussi de compétences parentales, de couple, même d'amitié hein, pour ceux qui deviennent parents et peut-être même les premiers de leur groupe d'amis, par exemple. Donc, c'est vraiment une discussion très riche que je suis fière de vous présenter. Et mon intention ici, c'est aucunement de démoniser là, tout ce qui est l'approche médicale dans les hôpitaux ou même les interventions médicales parce que pour moi, tout a sa place. Donc, rien de mauvais. Pour moi, je suis soulagée et sécure à l'idée que si mon bébé a besoin d'intervention, si j'ai besoin d'une césarienne d'urgence ou quoi que ce soit, la médecine va être là pour moi. Mais je voulais au contraire, au lieu de culpabiliser l'approche médicinale, de dire, ben il y a d'autres options qui s'offrent à nous en amont. Donc, clarifier c'est quoi le rôle de la sage-femme, cette professionnelle, hein, ces professionnels de la santé au Québec reconnus, avec l'ordre, avec un champ d'expertise qui marche main dans la main finalement avec les médecins et puis les hôpitaux. Donc ce n'est pas des sorcières anti-bistouri, là. C'est juste qu'ils vont vouloir vraiment faciliter la naissance physiologique qu'on appelle donc la naissance la plus facile, douce, oui, intense évidemment parce qu'on veut moins médicaliser les naissances, mais surtout à l'écoute de la maman, de ses limites, de ses besoins et du papa et de la famille qui est composée. Donc c'est une approche un peu plus systémique, on va voir toutes les compartiments d'une femme, d'une grossesse et justement les effets sur la gestion de la douleur, la naissance et la construction d'une belle famille. Alors, je vous souhaite une belle écoute, un bel épisode et j'espère sincèrement que vous allez apprécier. Bon premier épisode de la saison 4! Le podcast Maman Sereine est présenté par plusieurs partenaires et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la première qui est la boutique Mode Peace. En tant que maman, nouvellement maman, surtout avec un nouveau-né, prendre une douche est un luxe. Se peigner les cheveux est très rare et s'habiller pour se sentir belle, c'est, mon Dieu, un miracle. Par contre, je sens que c'est vraiment important pour l'estime puis aussi pour consolider notre rôle de maman, mais aussi de ne pas perdre celui du rôle de femme derrière, de sentir belle, de sentir rayonnante. Pour moi, c'était super important pour m'aider à traverser le postpartum.
J'ai toujours eu des valeurs éco-responsables, d'économie circulaire qui me fait aller fouiner dans les friperies pour aller dénicher des très très beaux vêtements à un prix ridiculement bas et de me sentir belle et de pouvoir justement être en harmonie avec mes valeurs de limiter la surconsommation. Par contre, étant maman, je n'ai pas le temps d'aller fouiner dans 4-5 boutiques de seconde main, dans les friperies pour aller dénicher justement des morceaux de perles rares parce qu'on sait que c'est un des défis de magasiner dans la seconde main, c'est d'avoir trouvé des items de qualité parmi toute la pile de linge qu'on peut trouver. Et pour moi, ça, c'était un défi, surtout avec un nouveau-né. J'ai pas le temps d'aller fouiner comme ça pendant 2 heures, me perdre dans les allées pour aller dénicher des belles trouvailles. Donc pour moi, ça, c'était un défi. Par contre, j'ai trouvé, justement, dans ma petite ville de Saint-Césaire, sur la rive sud de Montréal, j'ai déniché une petite boutique québécoise qui s'appelle Mode Peace. Une entreprise québécoise créée par la styliste Marie-Ève Darcy qui, elle, fait le shopping pour nous. Elle-même va aller magasiner dans plusieurs friperies, dans plusieurs boutiques de seconde main pour aller dénicher des items crème de la crème, je vous dirais, autant dans la qualité que dans le style. Elle va même créer des outfits, donc des looks en agençant des bas avec des hauts, même avec des accessoires, pour que lorsqu'on va magasiner dans la boutique, on n'ait pas à chercher la qualité, la crème de la crème, et agencer directement en boutique pour nous, tout rassembler sous la main. Donc quand on va magasiner dans cette boutique, oui, on trouve du seconde main, mais en plus, on trouve que du beau, que du bon et que de la qualité, parce que Marie-Ève va dénicher, oui, mais elle va aussi laver, réparer, agencer les morceaux pour que lorsqu'on rentre, c'est comme si on est dans une boutique, dans les magasins traditionnels, mais avec toutes les belles valeurs éco-responsables, économie circulaire du seconde main. Alors, je vous invite vraiment à aller découvrir cette femme extraordinaire qui nous offre une belle boutique. Si vous êtes dans la région, allez passer en boutique. Si vous passez dans le coin en Montérégie de Saint-Césaire, venez nous voir à la boutique Mode Peace. Et si c'est pas accessible pour vous, allez au moins voir son Instagram. Allez l'encourager, c'est magnifique ce qu'elle fait et vous allez pouvoir dans les prochaines semaines avoir la chance de découvrir des outfits de maman que je vais avoir la chance d'aller porter et de vous montrer sur Instagram. Donc allez nous suivre, je mets son compte Instagram en commentaire de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la 4e saison du podcast Sereine, maintenant renommé Maman Sereine, pour qu'on puisse parler de parentalité. Et justement, ben, on brise la glace avec un épisode de podcast à 4, je dirais même à 5, parce qu'aujourd'hui, on est en compagnie de, bien sûr, mon conjoint Simon-Pierre, mais aussi mon amie et sage-femme Dana, son amoureux Nico et leur tout nouveau bébé né il y a quelques jours seulement, Théo, qui est avec nous. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous allez avoir la chance de pouvoir voir ce beau petit bébé tout neuf qui est là. Puis sinon, ben pour nous, c'est un bonheur de pouvoir échanger en tant que parents sur une profession qui est assez nouvellement acceptée par le grand public, malgré qu'il y a encore plusieurs personnes, quand on partage notre préférence d'avoir... avoir été suivi d'une grossesse, nous, personnellement, avec les sages-femmes. Il y en a qui pensent que, encore là, c'est très ésotérique, qu'il n'y a pas vraiment de formation professionnelle, que c'est pas considéré comme sécuritaire. Donc, pour moi, c'est important de mettre la table à, justement, cette nouvelle profession, surtout qu'il y a eu le nouveau documentaire qui fait vraiment jaser, disponible gratuitement sur tout.tv, qui est Sage et Rebelle, qui va un petit peu revendiquer, justement, là, la reconnaissance de cette profession au Québec. Et pour moi, c'est un bonheur de pouvoir accueillir Dana, qui est sage-femme de profession, qui est maman 3 fois, et en plus, qui est une grande amie à moi du cégep. C'est tellement un bonheur pour moi qu'on puisse se recroiser maintenant dans la maternité. Alors, sur ces mots d'amour, et je lance des fleurs à toutes les mamans qui nous écoutent, à tous les parents aussi qui sont là, tous les papas, mais surtout aux sages-femmes pour démocratiser et partager cette belle profession. Alors, bonjour Dana!
Salut Charlène!
Est-ce que tu veux premièrement mettre la table un peu sur la profession de sage-femme, qui est pourtant un suivi qui devrait être offert à plus de 85% des grossesses qui sont physiologiques, qui peuvent donner un essence physiologique, c'est que ça soit plus facile qu'avec des interventions médicales où est-ce que là, on devrait vraiment aller en hôpitaux avec des médecins. Mais est-ce que tu peux départager un petit peu pourquoi est-ce que la majorité des femmes pourraient faire affaire avec un suivi sage-femme, contrairement à ce qu'en ce moment au Québec, je pense que c'est moins de 5% des femmes qui vont vers ce suivi grossesse. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu quelle est cette belle profession?
Ben en fait, déjà là, pour devenir sage-femme, ben on ne peut pas juste s'inventer sage-femme. Il faut vraiment qu'on fasse le parcours universitaire qui s'offre à l'Université du Québec à Trois-Rivières seulement au Québec, OK? Donc, pour devenir sage-femme, il faut faire le baccalauréat de 4 ans et demi qui comporte au moins 5 stages dans lesquels on est vraiment plongé dans une maison de naissance avec une préceptrice sage-femme pendant au moins 15 semaines. Donc, ce qui fait en sorte que quand on termine le bac, on a vu au moins entre 200 puis 500 accouchements. Dans le cursus aussi, à un moment donné, on fait un stage à l'hôpital avec les gynécos, avec les médecins pendant 9 semaines. Puis on fait aussi un stage en milieu communautaire. Donc, pour porter le titre de sage-femme, une fois qu'on a fait le parcours universitaire, on doit faire partie de l'Ordre des sages-femmes du Québec. Puis après, ben, pour travailler, on ne peut pas juste travailler autonome. Il faut vraiment être associé avec une maison de naissance. La maison de naissance est affiliée avec un hôpital de sa région. Donc, dépendamment d'où est-ce qu'on est, à Montréal, dans la Rive-Sud, dans la Rive-Nord, à Gatineau, à la Saguenay, Québec, ils ont tous un hôpital de référence sur lequel, en fait, les sages-femmes peuvent venir consulter avec les médecins, avec les gynécologues en cas de besoin. Donc, vraiment, la sage-femme va s'occuper du suivi de grossesse dès le départ jusqu'aux 6 semaines postnatales. Puis, pendant le suivi, on va vraiment, en fait, rencontrer la femme au même rythme qu'on rencontrait le médecin. Donc, au début, on parle d'un 4 à 6 semaines. Quand on se rapproche vers la fin de grossesse, eh bien là, on se rapproche à peu près aux 2 semaines. Puis quand on est à terme, ça va être aux semaines jusqu'à temps que l'accouchement ait lieu. La sage-femme va également offrir sa présence pendant l'accouchement, mais une présence peut-être en continu. C'est-à-dire que de manière que nos horaires sont faits, en général, on offre des disponibilités de garde. Donc, sur 2 semaines, eh bien, moi, je suis de garde, mettons, le lundi, mardi, mercredi. Ma partenaire est de garde le mercredi, jeudi, vendredi, puis on se partage une fin de semaine sur deux, 24 heures sur 24. Donc, de cette manière-là, ça offre la disponibilité aux femmes, quand elles accouchent, d'avoir une sage-femme qu'elles connaissent. Donc, quand, mettons, une femme m'appelle pour un accouchement, je m'en vais dans son lieu de naissance. Donc, elle choisit maison de naissance, l'hôpital ou bien le domicile. Je reste là jusqu'à temps qu'elle accouche. Ou bien, si jamais c'est un accouchement qui est plus long, on demande une relève à une autre sage-femme. Mais c'est vraiment la sage-femme qui va s'occuper de l'accouchement. Si jamais il y a des transferts, eh bien là, on va communiquer avec l'équipe de gynécologues, puis on va opérer au transfert. Mais généralement, ça se fait vraiment sous nos soins. Du moment où la femme accouche, on offre aussi le soutien postnatal. Donc, le jour 1, le jour 3, le jour 5 vont être à domicile selon les besoins, offerts par la sage-femme. Donc, elle vient chez elle, évaluer maman, évaluer bébé, évaluer l'allaitement. Puis, ça se termine au bout des 6 semaines de grossesse parce que là, on termine la phase nouveau-né. Donc, là, le bébé va être suivi par un médecin de famille, par un pédiatre et la mère aussi. Donc, déjà là, ça montre un peu c'est quoi que ça fait. Les sages-femmes, il faut quand même comprendre qu'on ne fait pas des suivis de femmes qui sont considérées à risque élevé. Donc, une femme qui est en bonne santé, qui ne fait pas d'hypertension, qui ne fait pas de diabète de type 1, qui n'a pas de maladie cardiovasculaire ou bref, peu importe, ça sort de notre champ d'expertise. Donc, c'est pour ça qu'on parle que les sages-femmes peuvent faire l'équivalent de 80% des suivis de grossesse parce que 80% des femmes sont en santé quand elles deviennent enceintes. Donc, c'est à ce moment-là que nous, on peut leur offrir le suivi sage-femme. Les 20% de femmes qui pourraient avoir besoin de plus d'un suivi spécialisé, bien là, en fait, c'est pour ça que là, il y a les médecins omnipraticiens qui font des suivis ou bien il va y avoir les gynécologues qui vont prendre la relève quand c'est vraiment plus complexe puis que ça pourrait avoir certaines complications au moment de l'accouchement. Du par le fait qu'on prend des femmes à faible risque, au niveau de l'accouchement, on vient déjà éliminer beaucoup de risques parce qu'en fait, on part avec un bébé qui va être en santé, avec un placenta qui va bien nourrir le bébé, avec une femme qui va bien tolérer le travail. Si jamais pendant l'accouchement, il y a certains drapeaux rouges qui s'élèvent, eh bien, nous, on a vraiment une loi, des règlements à respecter qui nous demande que quand, mettons, on a un cœur de bébé qui décélère constamment, eh bien, il faut faire un transfert. Fait que c'est ça qui fait en sorte que le suivi sage-femme est sécuritaire. C'est parce qu'on sélectionne les femmes qui peuvent accoucher avec nous. Puis si jamais il y a des drapeaux rouges qui s'élèvent, on sait qu'on n'est pas à l'hôpital la plupart du temps. Fait qu'on va faire le transfert, puis on va faire les communications. Et on a vraiment une belle relation générale avec les gynécologues, ce qui nous permet de le faire facilement. Ça résume un peu le tout. Puis, c'est sûr qu'on ne fait pas beaucoup de suivi présentement. On est peut-être en bas de 5 % là, dépendamment des régions. Mais c'est surtout parce qu'il y a un enjeu aussi d'accessibilité, en fait, au service sage-femme.
Parce
Oui.
que c'est un service qui est contingenté ou qui est peu connu, parce qu'il y a moins de gradués que de demandes. Comment ça, pour qu'est-ce qui explique ça?
En fait, c'est ça. Déjà là, dans le baccalauréat, on ressort, on est peut-être à peu près 25 étudiants par année. Parce que dans le baccalauréat, comme je te l'ai dit, on fait des stages, mais on suit, chaque étudiante suit une préceptrice sage-femme pendant 2 stages à peu près. Fait que ça fait en sorte qu'on ne peut pas avoir une, mettons, moi, je ne peux pas avoir 3 étudiantes avec moi, je peux juste en avoir une seule. Puis il faut vraiment qu'on fasse 1 ou 2 stages en continu ensemble. Donc, ça, c'est déjà un enjeu. L'autre chose aussi, c'est qu'on fait face à beaucoup comment je pourrais dire ça, d'enjeux de reconnaissance, en fait. On essaie de faire reconnaître notre pratique, de faire reconnaître la valeur qu'on a dans le système de santé, mais c'est encore difficile aujourd'hui à faire reconnaître ça. C'est pas normal des fois qu'on s'en va à l'hôpital puis qu'on dise bonjour, je suis la sage-femme, puis qu'on me demande. Comment ça, il y a une sage-femme ici? C'est quoi que ça fait? T'sais, on devrait être plus reconnus de par nos collègues, mais
Ben,
de
c'est ça.
par le ministère, puis d'avoir accès à plus de ressources pour le développer, en fait. Parce que la demande est là. La plupart du temps, là, c'est difficile d'avoir une sage-femme. Il y a des personnes qui sont sur des listes d'attente, puis qui espèrent vraiment avoir leur suivi, puis finalement, on leur dit, ben, on n'a plus de place, malheureusement. T'sais, on peut te rappeler d'ici 32 semaines. Fait que on voit que la demande est là, mais c'est qu'on n'est pas assez de sages-femmes pour offrir ben à tout le monde ce suivi-là qui est vraiment exceptionnel puis qui devrait être offert à tous. Oui.
Absolument. Absolument.
Oui.
Puis peut-être si on boucle la partie expertise avec, c'est quoi la différence dans les philosophies, dans l'approche? Parce que quand on regardait le documentaire ensemble, Simon puis moi, je trouvais ça beau de voir que tu sais, l'approche, la philosophie est différente. On part avec beaucoup plus de confiance envers la mère, envers tu sais, oui, les choix libres et éclairés, mais beaucoup la confiance, avec comme une notion de empowerment qui était derrière ça. Puis peut-être aussi dans ta réponse, si tu peux aller peaufiner le fait qu'il y en a qui pensent que les sages-femmes, tu sais, c'est strictement anti-médicaments, puis que, tu sais, moi, personnellement, d'emblée, je voulais pas qu'on prévoie l'épidurale dans mon plan de naissance. Par contre, j'ai bien vu que les sages-femmes méditaient, puis ça se peut que on te la propose si ça peut favoriser un accouchement naturel, puis qu'on est avec toi à l'hôpital. Tu sais, j'ai vu que c'est vraiment des partenaires, un continuum du service des professionnels de la santé, puis c'est vraiment pas des anti-médecins. Donc ça, je trouvais ça bien, mais peut-être dans la philosophie, l'approche, est-ce que tu pourrais nous dire les grandes lignes un petit peu là, du contexte avec lequel on accueille les mamans puis les couples qui s'apprêtent à avoir des enfants.
Ben, déjà là, je te dirais que, mettons, l'appel sage-femme vient généralement de femmes. Là, on commence à avoir des hommes qui s'intéressent à venir s'inscrire dans le processus. Juste mettons, dans ma classe, il y avait le premier homme sage-femme. Puis là, ben, après ça, j'ai su que dernièrement, qu'il y avait d'autres hommes qui étudiaient pour devenir sage-femme. Mais c'est vraiment une profession qui va toucher des valeurs féministes. Donc, mettons, ma valeur, en fait, quand j'accueille des parents, c'est vraiment de me considérer que le couple que j'accueille devant moi est unique, a des besoins uniques. Ce qu'ils vivent, c'est quelque chose de riche en émotions, c'est quelque chose qui va les construire dans leur parentalité. C'est qu'ils sont vraiment en train d'écrire leur chapitre là, de naissance là, pour nous. Donc, on considère déjà ça quand, mettons, il y a un couple de parents qui arrivent, on les accueille d'où est-ce qu'ils partent, puis on les accompagne là-dedans jusqu'à temps que, pouf, ils deviennent parents. Ensuite de ça, on croit toutes que la femme a la capacité de mettre au monde son enfant dans le milieu qu'elle souhaite, avec les personnes qu'elle souhaite, puis dans le contexte qu'elle va aimer. Donc, déjà là, de la manière qu'on accompagne les femmes, c'est qu'on n'est pas, OK, ben, il y a le protocole à suivre, clac, clac, clac. On regarde qu'est-ce qui se passe, puis on s'ajuste au fur et à mesure pour bien l'accompagner là-dedans. Ensuite, il y a aussi une grande part, mettons, du respect. Mettons, quand on rencontre des clients qui viennent dans la maison de naissance, on ne les considère pas nécessairement comme des patients, on les considère comme des clients, on leur offre un service pour leur grossesse. Puis, après ça, bien, il y a des parents qui vont vouloir plus d'intervention, des parents qui vont vouloir moins d'intervention, mais le plus important pour moi, c'est de me dire, ben, j'accompagne ces parents-là avec leur couleur, puis on ira au fil et à mesure de cette grossesse-là, avec les couleurs qu'ils veulent rajouter, puis c'est aussi simple que ça. On n'est pas anti-médicaments parce qu'on travaille avec les médicaments, tu sais, dans certains sens. Des fois, c'est nécessaire, des fois, ce n'est pas. C'est vraiment de se dire, on va utiliser la technologie puis les médicaments de façon judicieuse. C'est-à-dire qu'avant de se rendre, admettons, pour l'accouchement à une péridurale, bien, on va essayer des affaires. Est-ce que ça, c'est plus douloureux parce que le bébé est mal positionné? OK, mais on va regarder, puis après ça, on va proposer d'autres choses. On va faire des changements de position. On va utiliser le rebozo. On va travailler avec la gravité. OK, est-ce que c'est plus douloureux parce qu'il faut qu'elle passe un peu cette montagne psychologique-là qui a été dit de « Ah, oh, j'ai peur de devenir mère », bien dans ce cas-là, on va l'adresser. Qu'est-ce qui t'habite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort présentement qui t'empêche de comme passer au travers de ça? Est-ce que c'est parce que l'environnement n'est pas favorable? Donc, est-ce qu'on va descendre les lumières? On va demander aux personnes de diminuer le bruit si, mettons, il y a plusieurs personnes dans la chambre. On va aider, en fait, le conjoint à prendre part au processus. Si on voit qu'il y a quelque chose qui soulage, c'est la première chose qu'on fait. On essaie des choses. Ah, on a trouvé le bon point de pression, ça la soulage. OK, bien, viens-t'en. Tiens, c'est comme ça que tu peux le faire. Puis là, on essaie de construire leur bulle. Il y a des femmes qui vont avoir besoin d'un village de femmes pour accoucher. Ils vont avoir besoin de leur mère pour devenir mère. Puis il y en a d'autres qui auront juste besoin d'être dans leur état sauvage pur et dur, puis c'est correct. Le rôle de sage-femme, c'est vraiment de s'adapter à la sauce du jour. Parce qu'il peut y avoir autant d'accouchements possibles qu'il y a de bébés qui naissent. Juste moi, mettons, avec mes trois enfants, ça a été trois accouchements complètement différents, avec trois besoins complètement différents, puis c'était correct comme ça, j'avais besoin de ces forces-là pour passer au travers de l'intensité de l'accouchement. Puis si on voit après tout ça, tout ce qu'on a fait, que malgré tout, c'est peut-être la péridurale qu'il faut, bien, on ira vers la péridurale. Le but, c'est pas d'embarquer dans une souffrance psychologique, dans un trauma de l'accouchement. C'est de dire, bien, si on est rendu là, on va le faire, puis au moins, après ton accouchement, si jamais ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais, mais au moins tu n'auras pas le regret de te dire, mais si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être eu l'accouchement que je m'étais imaginé au départ. Puis, mettons, juste à pendant l'accouchement, sinon on doit faire des transferts, eh bien, si je vois une femme qui a certains facteurs de risque pendant l'accouchement pour un saignement, je ne vais pas dire, ah ben, on laisse vraiment la nature faire le plus possible, on va faire un choix éclairé, ou bien même des fois, je vais juste vraiment recommander. Écoute, ton bébé était plus gros que ce qu'on avait prévu. Ça a été un accouchement un peu plus long que ce qu'on avait prévu. Moi, ce que je te suggérais, ça serait de donner l'ocytocine pour au moins réduire les saignements pour après l'accouchement parce qu'il ne faut pas oublier que tu as ton bébé aussi à t'occuper après. Puis les femmes acceptent, là. Donc, on est vraiment dans. On regarde les risques, on essaie de prévenir le plus possible. Puis quand c'est nécessaire, on agit. Et même chose pour les médicaments ou bien les interventions durant tout au long de la grossesse, là. Moi. Puis à chaque fois que je propose un test ou un choix éclairé, on parle de c'est quoi. Puis après ça, on se dit, OK, mais voici les alternatives, voici ta situation, qu'est-ce que moi je te recommanderais? C'est une recommandation, c'est pas une obligation. Mais il y a des femmes où est-ce qu'on pourrait dire, je te recommande de faire le dépistage de diabète gestationnel 75 grammes plutôt que 55 grammes parce que tac, 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 tac. Ou bien, je te recommande de faire l'échographie de croissance parce que tac, 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 tac. Donc, déjà là, on y va toujours dans cette manière-là parce qu'on se dit que on veut favoriser des compétences parentales, on veut favoriser le fait que ces parents-là se sentent impliqués dans la grossesse. Donc, la meilleure manière de le faire, c'est de faire de la grossesse, de parler de ça ensemble, puis qu'après ça, vous élaboriez des communications qui vont vous aider après ça dans devenir parent à quand vous allez avoir face à, mettons, au comportement X, Y, Z de bébé, ou bien quand bébé va réagir de telle manière, bien, ça favorise tout ça. Puis, c'est toute une question de consentement libre et éclairé, dans le sens que il n'y a rien d'obligatoire. On fait des recommandations, mais après ça, si c'est décliné, on va dire, OK, mais il faut peut-être surveiller ça, ça, ça en contrepartie. Parce que c'est les parents, c'est les personnes qui connaissent le mieux leur bébé. Puis si on ne croit pas en eux, comment est-ce qu'eux vont croire en eux? Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Puis aussi l'aspect féministe, mettons, moi, au début, ce que je pensais quand je voulais devenir sage-femme, c'était comme, je vais rencontrer plein de bébés, mais finalement, je suis tombée en amour avec les femmes, avec les pères. J'étais comme, c'est tellement beau ce qu'ils vivent, c'est tellement unique, c'est tellement riche. Moi, si je peux juste être la personne pour les écouter, pour les guider là-dedans, pour les accompagner, puis que je vois que, mettons, une femme en début de grossesse, était tout le temps stressée, avait toujours de la peine, puis elle se sentait un peu perdue, puis qu'elle est rendue à la fin de la grossesse, elle sente, puis qu'elle croit en elle, qu'elle a le pouvoir de donner naissance à son bébé, qu'elle a la puissance, qu'elle a le pouvoir, qu'elle a la confiance de s'occuper de son bébé après, j'ai accompli mon travail en tant que sage-femme. C'est ça le plus gros de la finalité. Puis, c'est rendu à la fin du suivi de grossesse. Tous nos clients, là, c'est vraiment un deuil quand on doit faire le système N de se dire, OK, on se revoit peut-être pour une autre grossesse ou peut-être pas. Tu sais, c'est parce qu'on s'est attaché, on a appris à se connaître. Tu sais, pendant les rencontres, là, 45 minutes, on a une partie clinique, mais sinon, on discute de la sauce du jour. Tu sais, il y a des mamans qui viennent qui n'ont pas de réseau, que c'est la première fois qu'ils deviennent parents. Fait que là, ils posent beaucoup de questions, on répond à ça. Il y a des femmes où est-ce qu'ils vont avoir besoin de guérir certaines blessures d'anciennes grossesses, d'accouchement, bien, on en discute, on essaie de voir c'est quoi le petit bobo derrière. Des parents que c'est, mettons, le premier bébé qui n'était pas tout à fait planifié, puis là, ils ont certaines peurs, bien, on en parle, on essaie de voir c'est quoi qui fait en sorte que c'est quoi la peur derrière, puis c'est comment est-ce qu'on peut travailler ça en fin de grossesse, comment est-ce qu'on peut travailler ça pour que ce soit plus facile dans les premiers temps, puis accepter la nouvelle réalité qui s'en vient. Donc, c'est ça la beauté du suivi sage-femme, c'est que oui, mettons, il y a un professionnel, mais il y a une relation qui s'installe. On apprend à se connaître. Quand les parents nous appellent à 1 h, 2 h du matin, ah, salut Charlène, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe là? OK, je ne suis pas en train de te demander tous tes paramètres physiques parce que je te connais. Des fois, où est-ce que ça arrive? C'est parce qu'on est vraiment dans des événements spéciaux, là, mais en général, on vous connaît, on connaît le nom du conjoint. Puis, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir. Ça fait en sorte que dans les postnataux, on est capable de plus facilement détecter des petites dépressions postpartum, qu'on est plus alerte, mettons, à certains signes. Fait que c'est quand même ça qui est beau. Puis, tu sais, je pense que tout le monde devrait avoir un suivi sage-femme juste parce que tu as une inquiétude à 2 h du matin par rapport à ton bébé, là. Tu veux l'avoir, là, ta réponse. Tu veux pas attendre demain matin, là. Tu vas pas dormir bien toute la nuit. T'appelles ta sage-femme, elle va te répondre parce que c'est ça son travail.
C'est le fait d'être disponible, ben, où il y a l'aspect disponibilité, il y a l'aspect chaleureux aussi, t'es relationnel. Puis le mot que tu as dit, que je t'ai fait genre, ah oh ouais, il y a toute la transformation pendant le suivi grossesse, tout l'empowerment, tu disais développer les compétences parentales. Puis nous, pour notre premier bébé, par exemple, j'ai l'impression qu'elle nous a aidés ou elle nous a accompagnés pendant qu'on se transformait de couple à parents. Ça se bâtit, ça, en chemin. Puis c'est peut-être là que je lancerai la balle parce que je sais que dans cette approche-là, on laisse beaucoup d'espace au papa. Il y a beaucoup aux accompagnateurs, peu importe qui c'est, mais dans mon cas et dans ton cas, il y avait la présence de papa qui était là. Dans ce rôle-là que les papas vont jouer, peut-être je vais lancer la balle à Nico si Théo nous permet de parler.
Ça notre tonique.
Oui, c'est à votre tour. Parce
Voilà.
que, en tant que papa, là, en ce moment, tu es le vétéran là, du groupe, là, en tant que papa qui a assisté à 3 naissances, dans toute cette philosophie-là de sage-femme, quelle place ou quel rôle tu sens que tu as pu prendre puis que tu voulais peut-être prendre? Comment tu t'es apprivoisé cette identité-là, premièrement, de devenir papa, puis après, ben, d'accompagner ton amoureuse à donner naissance à tes enfants?
Ben, on est vraiment impliqués, en fait, du début à la fin. Je veux dire, oui, c'est le suivi de grossesse de la mère, de la femme, mais aussi le père ou le partenaire, il est vraiment impliqué autant dans les discussions que, mettons, mettons, Dana, ça se couchait, je peux aller m'asseoir à côté. On était tout le temps impliqués là, dans la discussion. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est que c'est pas 15 minutes sur le coin d'un bureau, puis OK, c'est bon, on se revoit dans 4 à 7 semaines. Là, on prenait vraiment le temps de jaser. Mettons, Dana, il fallait qu'elle fasse certaines affaires du rendez-vous. Mettons, je sais pas, il fallait qu'elle fasse un test d'urine. Mais mettons, moi, pendant ce temps-là, je restais avec la sage-femme. Elle me demandait, moi, comment j'allais, comment je trouvais ça, la grossesse jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, au début, ça commence à être loin un peu. Ça va faire 5 ans. C'est ça. Ça va faire 5 ans, premier suivi de grossesse. Mais, tu sais, je me souviens, j'avais beaucoup d'insécurité dans ce temps-là. Puis, j'en prenais quand même le temps de parler, là, avec mes sages-femmes qui te suivaient. Puis, ça avait. C'était vraiment sécurisant aussi, là, le fait que je me fasse quand même questionner, puis pas questionner, mais je me fasse inclure dans la discussion ou comment moi j'allais, puis tout, parce que oui, mettons, physiquement, c'est beaucoup la mère, la femme qui va le vivre, la grossesse, mais toi aussi, comme père ou comme l'autre parent, Tu vas voir aussi une transformation aussi là-dedans, là, comme vous parliez tantôt, là, de passer de couple à parents, à famille. C'est pas une petite étape non plus. Là, fait que, le fait qu'on était qu'on, tu sais, je me sentais vraiment inclus là-dedans, puis tout. J'ai vraiment apprécié ça parce qu'au début, tu sais, on en parlait un peu, c'était quoi la job de sage-femme. J'aurais jamais pensé le voir aussi vite, c'était quoi dans le bureau. Mais ça m'a permis de vraiment plus comprendre qu'est-ce que Dana faisait comme travail, puis en même temps d'être comme épaté aussi par tout ça. T'sais, que moi, après ça, j'étais vendu, là. J'ai vraiment aimé ça, là, ben, pour vrai. J'étais vraiment vendu par ça. Puis au début, Dana, j'aimerais vraiment ça, un suivi de sage-femme, mais j'étais comme, ben, tu sais, Dana, étudier là-dedans, c'est normal aussi. Puis après ça, mettons, pour les deux autres grossesses, je me posais même pas la question, là, que.
C'était juste, ça allait de soi, tu sais,
Ouais, ça allait de soi.
c'était juste le fun, admettons, d'avoir une discussion à trois, tu sais, de quand elle nous posait des questions, OK, sur les soins, comment est-ce qu'on voyait l'accouchement, bien, elle essayait de voir c'était quoi la vision de Nicolas pour que moi aussi, tu sais, des fois, on discute entre nous, mais des fois, on n'a pas toutes les questions en notre possession, puis là, pouf, il y a une question qui surgit, t'es comme, ah, c'est matière réflexion, on va en discuter rentrant à la maison, fait que là, on arrivait à la maison, on parlait, mettons, de comment est-ce qu'on voyait l'accouchement. Lui, il me partageait sa vision, moi, je lui partageais la mienne. Puis on se disait, bien, on pourrait peut-être essayer ça pendant l'accouchement. Puis, même si c'était notre troisième, on l'a eu encore, cette discussion-là, de se dire, hey, à notre deuxième, là, j'avais juste besoin de ma bulle, mais là, ça se peut que je trouve ça vraiment intense. J'aurais peut-être besoin que tu sois plus présent. Puis, comme de fait, c'est ça qui s'est passé.
On s'arrête le temps d'une courte pause dans laquelle j'ai le bonheur de vous présenter et de vous inviter à joindre la communauté gratuite de Maman Sereine, un groupe de femmes, futures mamans ou pas, qui viennent ensemble connecter pour s'offrir soit des ressources, de la compassion, de l'écoute, des conseils, mais aussi peut-être des réponses d'experts pour pouvoir s'entraider à vivre la maternité. C'est quelque chose que un projet que je convoite, que je chouchoute, que je couve et que je berce dans moi depuis le début de ma maternité parce que j'ai eu la chance avec ma grande communauté d'Instagram puis des groupes Facebook, de connecter avec des femmes qui s'entraident à vivre toutes les étapes, si grandes et perturbantes soient-elles, parce qu'on parle beaucoup de matrescence, hein, qui est comme autant de grands changements que l'adolescence, mais chez une femme qui devient mère. Et pour moi, le choc du postpartum et de la matrescence a tellement été adouci par de conseils, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance d'un groupe tellement grand de femmes à travers le monde que je me suis dit, je ne peux pas garder ce privilège d'être entourée et soutenue parce que j'ai une belle communauté Instagram. Je veux l'ouvrir à toutes les femmes qui veulent connecter ensemble pour s'entraider, s'écouter, s'aimer, mais aussi avoir des réponses pertinentes d'experts à leurs questions. C'est là qu'est née l'idée du groupe et de la communauté Maman Sereine dans lequel je vais inviter les invités du podcast à venir avec moi dans la communauté, répondre à vos questions. C'est un peu comme un after-show de chaque épisode de podcast. La communauté est gratuite pour l'instant. Alors, pour toutes celles qui veulent joindre la communauté, je vais mettre le lien du groupe en commentaire de l'épisode. Venez nous voir, la communauté de Maman Sereine, et venez connecter avec des femmes extraordinaires. Venez vous ressourcer, aller chercher plein de conseils, d'amour, de soutien, puis de réponses à vos questions par des experts invités. Tout ça gratuitement dans ma communauté de Maman Sereine. J'ai hâte de vous y retrouver et de vous y bercer avec autant d'amour et de sérénité que vous le méritez. Alors, on se revoit de l'autre côté. Bonne suite d'épisode!
Que moi, je trouvais le fun, admettons, de voir avec Nicolas parce que moi, je le voyais dans mon bureau, mais à titre personnel, je trouvais ça
Ouais.
beau de voir c'est quoi ses réflexions devant la sage-femme
Ouais,
aussi.
c'est sûr, c'est différent aussi quand c'est toi qui le vis personnellement. Puis moi, ce que je. Ben là, on l'a pas encore, mais ce que j'aime, oui, on est impliqué, mais aussi juste le suivi, en fait. Puis loin de moi de vouloir faire la comparaison entre l'hôpital puis
la maison de sage-femme, la maison de naissance plutôt, mais c'est sûr que souvent tu vas associer l'hôpital à tout ce qui est malade, maladie, etc. Fait que juste le fait de ne pas aller à l'hôpital pour faire un suivi, puis d'être dans une pièce où est-ce que dans le bureau, il est super le fun, puis c'est comme une belle ambiance. L'ambiance est malade. Là. Tu rentres là, puis t'as quasiment envie d'accoucher tout de suite. Là. T'es comme, OK, mais let's go, fais-le, parce que j'ai envie que ça se passe tout de suite. Fait que le suivi en tant que tel qui est fait dans une maison de naissance autre que l'hôpital, selon moi, puis tu sais, je suis jamais à l'hôpital pour la naissance encore, ça aussi, ça fait une différence, tu sais, que tu te sens mieux. Tu rentres là, puis c'est un bon vibe, tandis que j'ai l'impression que si t'allais à l'hôpital, tu vois le monde malade un peu, c'est comme, je sais pas. J'ai pas vécu les deux, mais on dirait que je suis capable d'imaginer la différence entre les deux, de dire, ouais, finalement, j'ai eu la maison de naissance, puis moi, j'ai pas eu à être convaincu non plus de dire on le fait. Quand je suis allé me proposer la maison de naissance, j'étais comme, vu que c'est toi qui accouches, je pense que la décision te revient un peu plus. C'est sûr que j'avais mes questions à savoir, parce que moi non plus, je savais pas c'est quoi une sage-femme, maison de naissance. J'avais aucune idée que ça existait, fait que j'ai posé mes questions pour savoir c'est quoi. Puis tout de suite, ça n'a pas pris de temps. Là, quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait, OK, mais ça a vraiment du sens. Puis c'est des professionnels de la santé, juste de savoir que c'est des professionnels, pas juste des femmes qui s'inventent, comme tu disais tantôt, sage-femme, pour le plaisir de dire. Je bois du thé vert, puis tout d'un coup, je suis sage-femme. C'est peut-être la vision que j'avais un peu au début. Fait que quand tu te rends compte que c'est des professionnels de la santé, mais ça fait juste du sens de faire. Si le suivi est un peu plus humain, ben pourquoi je le ferais pas? Puis je pense que ça, le droit revient à la femme de choisir aussi de ce côté-là. Puis le père, oui, il a le droit d'avoir ses questions, mais c'est de suivre où est-ce que la femme va se sentir bien d'avoir ses suivis puis d'accoucher éventuellement. Là.
Puis je trouve ça bien qu'il était dit justement le fait que de sonder c'est quoi que ta femme en veut puis comment est-ce qu'elle sent en sécurité, parce que ça, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre. Là. Il y a des femmes qui vont sentir super en sécurité à l'hôpital, puis c'est correct, mais il y en a d'autres que ça va pas être ça, ça va être plus à la maison ou bien à domicile. Là. Puis le fait que tu sois capable de reconnaître ça puis de dire OK, mais on va quand même prendre les formations, on va se renseigner. C'est déjà un bon pas. Souvent, quand je reçois du monde dans mon bureau, les premiers papas, mettons, ou bien premier suivi sage-femme, c'est toujours une question, est-ce que c'est sécuritaire? Donc, si on fait la visite puis qu'on leur montre tout ce qu'on a, là, puis qu'on n'a pas juste des tisanes de thé vert, là, ou, là, ça les sécurise quand ils voient, OK, ben, non seulement c'est chaleureux, c'est vraiment propice au rapprochement, c'est comme une maison, en fait, là. C'est juste mais comment les bureaux sont faits, vu, là.
Oui, c'est vraiment cute. Puis juste la chambre, moi, c'est, je pense que c'est l'affaire que j'ai le plus capoté. C'est justement quand, puis encore une fois, je ne veux pas comparer l'hôpital, mais quand tu vas dans, tu sais, c'est un lit d'hôpital, une chambre d'hôpital, tandis que là, elle nous a montré, il y a de ça une couple de mois, la chambre où est-ce que, il y a plusieurs chambres, 5-6 chambres, où est-ce que Charlene va accoucher, puis je suis comme, OK, mais c'est comme si on était dans notre chambre, c'est un lit double, vrai lit. Ouais. Tu sais, tu as le banc à côté, c'est vraiment beau, puis si tu te sens bien juste de rentrer là-dedans, tandis que des fois, justement, le décor hôpital peut faire un peu plus froid. Puis moi, ce que j'aimais tantôt, quand tu as tout expliqué la description de sage-femme, c'est que tu parlais tout le temps par rapport à la femme, puis on se rend compte des fois que l'accouchement est beaucoup visé sur le bébé, on veut que le bébé aille bien, puis que toi, tu penses, mais oui, mais à la base, c'est la femme qui accouche, puis c'est elle qui va donner naissance au bébé. Donc, tu veux qu'à la base, la femme se sente bien, puis si la femme se sent bien, l'accouchement, il y a déjà plus de chances que ça se passe bien de ce côté-là aussi. Fait que juste d'entourer la femme toujours, que ce soit elle qui soit dans la discussion, qu'elle se sente bien, puis que tout se passe bien, bien, je pense que c'est un pas vers la bonne direction aussi de penser à ça de prime abord. Là.
Mm-hmm. Puis tantôt, tu parlais de l'ambiance, puis c'est vrai, quand je rentre à la maison de naissance, c'est paisible. Mm-hmm. Dans le sens, c'est pas beaucoup de bruit, ça court pas. Comme tu disais tantôt, t'entends pas le monde tousser, tu vois pas paquet d'enfants, tu vois pas tout le monde, c'est si là, tu viens là. C'est pour l'accouchement, c'est pour la famille, c'est pour le bébé, c'est pour le suivi de grossesse. Ça, c'est vrai que juste ça aussi, ça donne plus en confiance. Et là, OK, c'est vraiment un endroit pour les accouchements, pour les suivis. Puis je trouvais que tu avais dit bon mot là-dessus, c'est l'ambiance, ça, c'est vrai que ça joue pour beaucoup aussi. On a accouché à maison de naissance cette fois-là, puis c'était parfait pour qu'est-ce qu'on avait comme besoin aussi, cette grossesse-ci, puis cet accouchement-ci. Ouais. Puis,
Ah ouais, mais tu sais, c'est quand tu y penses à maison de naissance, là, moi, quand je rentre, ben des fois, il y a déjà des femmes avec leurs enfants qui courent un peu partout, qui vont jouer. Tu te dis, c'est pas, ça n'enlève rien à l'hôpital. L'hôpital est nécessaire. On en a besoin à certains moments, mais tu sais, pour un événement comme ça qui est normal, qui est unique, de voir, tu sais, quand tu amènes ton enfant à la maison de naissance, que tu dis c'est sécuritaire, il peut venir avec moi au rendez-vous, il va écouter le cœur du bébé, il est impliqué lui aussi là-dedans. Ça change tellement la donne de dire ben, la grossesse, c'est pas une maladie. C'est juste un
Ben
événement
oui.
normal de la
Oui.
vie dans lequel mon enfant aussi peut être inclus. Puis on le remarque tout de suite quand, mettons, c'est un deuxième, troisième suivi sage-femme, puis que les parents ramènent leur enfant qui était né d'une ancienne grossesse. Puis là, ils disent, regarde, c'est là que t'es né avec telle personne. Là, ils sont comme, oh, ils sont tous éblouis. Puis on dirait que ça personnalise encore plus l'expérience du suivi de grossesse.
C'est la célébration de la vie, c'est carrément ça.
Exact. C'est aussi le fait, à chaque fois qu'on était allé au rendez-vous, on était les seuls. T'sais, avec la sage-femme, il n'y a comme pas personne d'autre dans le building. En tout cas, ben, la nôtre est relativement petite, la maison de naissance. Fait que t'es comme tout seul, t'arrives là, c'est comme tu dis, là, c'est un bon sentiment. Puis la chose, moi, qui peut le plus rassurer, si on en parle, nous deux, ça va être notre premier enfant. Fait que, on n'arrête pas de niaiser de dire quand on va revenir avec elle à la maison, qu'est-ce qu'on fait là? T'sais, on la met dans la bassinette, puis on fait juste regarder. C'est comme c'est quoi les étapes un peu. Puis ce qui m'a rassuré beaucoup, c'est de dire, ah ben la sage-femme va venir. C'est quoi, c'est 24 heures après, je pense?
Ouais, je vois.
20, 20, 24 heures. T'sais, c'est rassurant, maudit qu'elle vienne, puis juste qu'elle nous explique un peu pour les boire. Puis moi, ça m'a rassuré beaucoup, tandis que c'est sûr que si tu vas à l'hôpital, bon, c'est toi qui y retournes, mais il n'y a personne qui vient chez vous dans ton environnement, où est-ce que c'est là que tu te sens le mieux, en fait, en tant que maman, puis ça. Fait que ça m'a beaucoup rassuré de dire, ah oh non, mais t'es pas laissé à toi-même dès que tu pars de la maison de naissance. Il y a comme un suivi
C'est
qui est fait
quoi
derrière
une
ça.
infirmière du CLSC que tu connais pas qui
C'est
rentre chez
ça.
toi, c'est
Ouais.
celle que tu connais puis que tu as repérée. Puis on dirait que quand on parle de le fait que c'est soit chaleureux comme environnement puis que tu te sens pas malade, je vais accoucher d'une journée à l'autre ou d'une heure à l'autre. Puis on dirait que pour un premier accouchement, moi, ce qui me faisait peur, c'était le côté justement de, tu sais, le petit feeling que tu t'en vas te faire opérer à cœur ouvert puis que tu as 50% de chances de mourir. Je le voulais pas, ce feeling-là. Tu sais, je veux pas me sentir que je vais me faire opérer puis je vais peut-être mourir ou que mon bébé va peut-être mourir. Je voulais que ça soit comme, ben, je suis en santé, mon bébé est en santé, puis on va juste vivre justement une transition, un passage accompagné de sage-femme ou de médecin au besoin, mais je ne suis pas malade puis je vais pas me faire opérer. Tu sais, je voulais enlever parce que mon approche était teintée, ma vision de l'accouchement était teintée de, tu sais, chirurgical, tu sais, je sais pas, on dirait que c'était comme, c'est dangereux, il y a un danger, puis il faut que les médecins me surveillent pour être sûr que je survive et que mon bébé survive. Fait que cette espèce d'appréhension-là, de peur, de maladie grave ou d'opération à cœur ouvert, là, on dirait que ça me faisait peur, mais là, on dirait qu'avec le temps, avec les discussions aussi, ça m'a permis de me dire, ben, je suis pas malade, mon bébé est pas malade, ça va bien aller, puis les sages-femmes sont justement là pour favoriser cette transition-là, cette naissance-là, puis faire en sorte que ça se passe bien. Fait que pour moi, ça a été vraiment apaisant comme ambiance, puis peut-être comme mot de la fin. En tant que, là, vous êtes parents de trois beaux enfants, mais pour tout nouveau parent, tu sais, nouveau couple qui se transforme tranquillement vers la parentalité, si on quitte un petit peu là, votre chapeau de sage-femme d'Anna, puis qu'on rentre dans votre couple, dans votre intimité, qu'est-ce que vous voudriez peut-être partager comme, pas comme conseil, mais comme peut-être un mot que vous voudriez vous donner à vous qui était, tu sais, tout nouveau ou bientôt parent, à l'aube de devenir parent pour la première fois. Ou en fait, je pense que oui, un nouveau couple de parents qui ont un nouveau bébé, oui, numéro un, mais je pense qu'à chaque enfant, votre couple devient dans une autre dimension. Fait que plus la famille s'agrandit, c'est comme si votre couple aussi chemine avec vous. Mais au niveau parental, qu'est-ce que vous voudriez partager?
Vraiment de faire confiance puis lâcher prise là, dans le sens que surf sur la vague puis ça va bien aller. C'est con de même, mais tu sais, des fois, c'est juste de go with the flow, tu sais, suivre le courant, suivre la vague, puis ça se fait comme tout seul. T'sais. Et oui, faut que tu te fasses confiance, faut que tu parles aussi beaucoup avec ton ou ta partenaire. On s'est beaucoup parlé, parce qu'on apprenait aussi encore à se connaître. On a beaucoup communiqué, puis c'est ça aussi, c'est ça qui nous a solidifié en tant que couple aussi. C'est le fait qu'on se disait tout, puis qu'on se faisait confiance, puis qu'on était capable aussi de se donner le relais, là, mettons au premier, là, quand tout est déjà chamboulé à la base, puis OK, tu veux-tu t'en occuper, OK, toi, t'es-tu correct, t'es aussi con que tu veux-tu aller prendre une douche, veux-tu, c'est juste un moment pour toi, tu veux-tu une heure pour toi, puis. On se le disait vice-versa, puis ça l'aide aussi de savoir qu'on peut compter un sur l'autre, puis on peut compter un sur l'autre, puis on n'a pas besoin de se sentir mal si on demande quelque chose à l'autre personne.
Moi, je vais dire ce que ma sage-femme m'a dit l'autre jour. L'amour guérit tout. L'amour guérit tout. C'est vrai, tu sais, dans le sens que les premiers temps, c'est c'est quand même chargé. Tu sais, il y a comme beaucoup de choses qui changent. Tu as un peu moins de disponibilité pour toi, un peu moins pour ton couple, mais tant ce longtemps que, mettons, tu gardes en tête que tu aimes la personne avec qui tu partages ta vie, tu aimes ton enfant, tu t'aimes toi, tu vas faire les choses pour que ça aille mieux. Tu vas commencer à mieux communiquer tes besoins. Comme Nicolas dit, on se communique chacun nos besoins. J'ai besoin de prendre une douche, peux-tu prendre Théo? OK. Toi, est-ce que tu veux prendre une douche? OK. Est-ce que tu veux prendre le temps de marcher? Est-ce que tu veux te reposer? On est vraiment, on communique nos besoins parce qu'on n'est pas nécessairement à l'écoute du besoin de l'autre. Il faut vraiment le nommer. On accepte l'aide beaucoup, beaucoup. Et ça, au début, on n'osait pas déranger. On était comme, non, on va s'arranger tout seul, on va tout faire tout seul. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que non, on vient d'accueillir un bébé. On a besoin d'aide un peu plus. Fait que quand le monde y venait, veux-tu faire de quoi? Ouais, pourrais-tu plier mon linge? Pourrais-tu faire ma vaisselle? Pourrais-tu amener un dîner, s'il te plaît? Puis ça a facilité tellement plus. Tu te sens plus énergie, tu te sens plus d'énergie, tu te sens plus reposé. C'est surtout après avoir accouché, après ça, t'as aussi la montée de lait. Tu sais, il y a tellement de changements dans le corps qui se passent, mais d'accepter l'aide, de s'aimer, de bien communiquer, je pense que c'est vraiment la clé, là. Après ça, tu sais aussi, tu sais, si on a le temps, là, parce que des fois, on n'a pas le temps, mais d'essayer de préparer des choses en avance, des repas, juste de ne pas avoir de repas à faire, là. On réchauffe la vaisselle après. Ça facilite tellement de choses. Mais ouais, je pense que c'est ça. Moi, c'est les quatre conseils que je donnerais.
Notion, tu sais, tu parlais de l'aide, c'est une notion aussi qu'on a un peu oubliée, ça prend un village pour élever un enfant, c'est toi qui penses. Tu
Oui.
sais, fait que l'aide, ça en prend, puis il faut être capable de la... Des fois, on veut, comme tu dis, on veut pas déranger, mais il faut que tu pisses ton orgueil aussi, puis il faut que tu acceptes l'aide, puis si on t'en offre, c'est encore plus facile, t'as même pas besoin de le demander. Fait que,
Ah ouais.
c'est
Ah ouais.
accepté, il faut vraiment l'accepter, puis
Ouais.
tout.
Puis à un moment donné, le balancier va revenir d'un autre côté. C'est
Oui.
correct que ce soit pas dans le prochain mois, que ce soit pas dans la prochaine année, que ce soit dans plusieurs années. Le balancier va se faire parce que si ton village il est solide, qu'il est vraiment relationnel, le monde va comprendre puis ils vont pas se dire ah ben là, je t'ai aidé à ce moment-là, faudrait que tu m'aides. C'est pas comme ça. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Puis là, je l'accepte vraiment, mais je me dis, j'aurais tellement dû l'accepter à mon premier. Toute cette aide-là qu'on m'avait offerte pour que je me repose, pour que je me sente mieux.
Ben, en tout cas, l'invitation est lancée à tous ceux qui nous connaissent. Si vous voulez venir faire la vaisselle, plier notre linge, bien cuire, faites
Pour
partie du
vrai, ouais.
party. C'est l'armoire.
C'était juste un petit 15 minutes, mais c'était une charge mentale de moins.
Ben, pour vrai, ça doit. Puis nous autres, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais je pense qu'on est quand même. On a quand même un bon entourage de ce côté-là, mais c'est vrai que je peux m'imaginer de me dire, ben, c'est mon enfant, c'est moi qui dois tout faire, j'ai pas à demander de l'aide ou à recevoir de l'aide. Mais puis d'avoir du monde, en fait, qu'on connaît qui ont des enfants ou que, ben, c'est ça, qui ont des enfants, de recevoir des conseils, de dire, ah, ben, ça fait du sens finalement justement, de prendre de l'aide ou même d'en demander s'il faut, de demander si c'est juste trop, de pas avoir peur, de faire regarde, c'est normal aussi parce on est nouveaux parents, puis surtout un premier que t'es comme pas trop sûr où tu t'en vas nécessairement, tu sais. Fait que c'est le fun de pouvoir recevoir des conseils. Puis je pense que c'est le but aussi du podcast de ceux qui écoutent, de juste faire ah ben, je suis dans le même bateau, tu sais, quelqu'un est enceinte, tu veux avoir des enfants. Ça dirige un peu plus de savoir de un, prendre un choix si tu veux être plus à l'hôpital, parce qu'il y en a qui veulent être à l'hôpital. Hein. Je pense que sage-femme, ça a été pour nous, puis ça va être pour les prochaines grossesses que tu vas avoir. Je pense que le choix va être fait
C'est pas
déjà.
parce que
Là.
tu prends celui sachant que tu n'accouches pas à l'hôpital.
Non,
Ils
aussi,
peuvent
ouais, c'est ça.
t'accompagner.
C'est effectivement. Fait que non, je pense que c'est le fun d'avoir des conseils aussi de chaque couple qu'on a avec des enfants, t'sais. Puis chacun a ses conseils, t'sais, vous donnez ça comme conseil ou comme mot, si vous voulez, par rapport à ça. Puis il y a d'autres parents qui vont dire d'autres choses. Puis tu essaies de prendre un peu tout, puis de former un peu la petite famille que tu vas avoir par rapport à ça, t'sais. Fait que c'est le fun.
Mais on dirait que j'aime la conversation qu'on a, puis j'aime qu'on termine avec le mot village parce que, tu sais, quand on est nouvellement parent, des fois, on est parfois les premiers amis de la gang à avoir un enfant. Puis là, ça fait comme ouf, tu sais, notre vie sociale va changer. Elle va pas diminuer, mais elle va se transformer. On va plus recevoir. Tu sais, on va peut-être être ceux qui iront pas au bar un jeudi soir, là, tu sais, avec un bébé naissant, par exemple. Fait que, tu sais, il y a comme des.
des adaptations qui sont à prévoir, mais de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut continuer à nourrir ce village-là, laisser de la place à tout le monde, même ceux qui ne sont pas intéressés par la parentalité, comment est-ce qu'on peut rester connecté avec eux? T'sais, c'est pas parce qu'ils veulent pas d'enfants qu'ils n'aimeront pas notre enfant ou qu'ils ne seront pas intéressés à vouloir faire partie des fêtes d'enfants, etc. Fait que de se dire, OK, ben peut-être que mon village va vivre une transformation. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un gros nettoyage non plus. Le but, c'est de dire, ben comment est-ce qu'on peut entretenir ce qui est déjà là et tisser, connecter avec d'autres parents. J'entends que c'est tellement rassurant de connecter avec d'autres personnes qui sont dans le même beat de vie que nous, qui vivent les mêmes difficultés, puis on dirait que justement, tout se passe un peu plus facilement vu qu'on a des conseils, puis on est rassuré de voir qu'on n'est pas toute seule dans ce bateau-là. Donc ça, je pense que c'est une bonne approche pour pouvoir être bien ensemble. Puis là, on dirait que le temps file, puis là, je sais qu'il faut qu'on termine le podcast, mais j'aurais une dernière question. Peut-être pour toi, mon amour, comment est-ce que, maintenant que tu vas être bientôt papa, officiellement, comment tu te sens, on va pouvoir enregistrer tes dernières paroles avant que Clara naisse, là. Comment est-ce que tu te sens l'arrivée de Clara qui s'en vient de façon imminente?
Oh, c'est large.
Oui.
Moi, j'aurais aimé ça que tu commences à travailler pendant le podcast. Ça aurait été malade qu'on juste on termine le podcast et dire « OK, non, ça commence. »
J'ai perdu mes os, je reviens.
Comment je me sens, honnêtement, à chaque fois, je me fais poser cette question-là. Puis je ne sais pas si toi, Nick, c'est la même chose, mais je pense que les deux, on n'est pas stressés. Je pensais que le stress allait embarquer de plus en plus qu'on approchait de la date, parce qu'on assumait un peu que.
C'était le contraire. Plus qu'on approchait de la date, ouais, plus j'étais calme.
Plus qu'on était. Oui, c'est vrai. Ben, j'ai jamais été stressé non plus tout le long de la grossesse. Puis même de savoir que ça pourrait être aujourd'hui, demain ou après-demain, je suis pas nécessairement stressé, mais on dirait que c'est de l'excitation. Puis j'ai juste hâte de faire sa rencontre. T'sais. Puis c'est peut-être une pensée un peu naïve, mais de penser justement que ça va être pas facile, mais ça va être tellement beau que l'amour, un peu comme. C'est quoi la phrase que tu disais tantôt? L'amour
guérit tout.
L'amour guérit tout. L'amour guérit tout, je l'aime cette phrase-là, je pense qu'on va, on va la garder pour vrai, puis c'est juste de dire, on va tellement l'aimer, on l'attend tellement ce petit bébé-là que l'amour va tout guérir, puis le manque de sommeil, puis la panique un peu de faire « my God, on est nouveaux parents ». C'est juste, honnêtement, c'est l'excitation, je pense que c'est mon mot d'ordre par rapport à cette naissance-là. On refait un podcast quand elle va naître, peut-être ça va être « oh my God, venez faire la vaisselle puis le lavage », mais peut-être que mon mot d'ordre va changer, mais non, honnêtement, c'est tellement de l'excitation, puis… Je ne sais pas si toi, c'est un peu la même. Ben, j'imagine que oui, mais.
Ouais, mais tu as mis le mot dessus, c'est l'excitation de la rencontre dépasse toutes mes craintes ou appréhensions possibles.
Ouais.
Donc, juste, tu sais, moi, je me nourris, je visualise beaucoup ces temps-ci, vu que ça approche. Je visualise comme chaque soir avant de m'endormir, je fais la scène un petit peu, puis pas pour avoir des attentes, mais juste pour cultiver un imaginaire positif. J'écoute beaucoup de vidéos de naissance naturelle ou est-ce que, tu sais, la maman, elle a pas nécessairement d'épidurale puis ça se passe bien parce que je veux montrer à mon cerveau que c'est possible. On dit que mon cerveau avait un doute au début tandis que là, je veux vraiment montrer qu'il y a plein de femmes qui accouchent puis, tu sais, j'ai pas besoin de l'épidurale d'emblée, tu sais. C'est une option dans le coffre à outils, mais c'est possible de le faire. Sans... Pour moi, c'est ça qui est important, la possibilité. C'est comme si j'étais en train de visualiser puis de... l'excitation de dire que dans mon ventre, il y a un bébé en ce moment, on dirait que c'est encore un peu, je sais pas, intangible là, de dire qu'il y a un bébé dans ce ventre-là, mais c'est de l'excitation de la rencontrer fait en sorte que l'appréhension ou des craintes, ou tu sais, ça se dissipe tranquillement, puis ouais, je pense qu'on a une confiance un peu naïve, mais on en profite parce que pendant ce temps-là, je suis calme, fait que je pense que c'est l'important.
Profitez-en, là. C'est d'être dans la fin, ça vous apporterait pas. Grand-chose.
C'est juste drôle parce que, tu sais, elle a son ventre, mettons, puis à côté, on a mis comme la bassinette déjà. Puis c'est juste de penser que présentement, Clara, dans le ventre à Charlène, est prête à être dans la bassinette à côté, là, et juste pas en bonne place. Elle est prête, c'est juste, c'est elle qui va décider quand elle va sortir. Puis c'est ça, c'est l'excitation de l'appréhension qu'elle sorte, puis enfin de la rencontrer. Juste de voir son visage, tu sais, on n'a même pas d'autres enfants ou bébés de dire, ben là, peut-être qu'elle va ressembler un peu à ce qu'on a eu avant, tu sais, là. Ouais. Mais c'est ça, juste de la rencontrer, voir son visage, puis. C'est le fun, c'est ça.
Ah, oh, eh bien, merci tellement d'avoir eu cette discussion avec nous. Ça va être un beau gros podcast de presque une heure, mais ça a été vraiment, pour être très riche. Puis notre but, c'était justement de faire découvrir la profession de sage-femme, mais surtout d'accompagner les parents, peu importe, les nouveaux parents ou les parents de 2, 3 enfants, 4 enfants peut-être, puis de les rassurer, puis d'avoir une discussion entre parents, comme ça, simplement, avec Théo qui nous a laissé tout ce temps-là bien tranquille, mon Dieu! Merci,
Théo. Ah ouais. C'est facile d'être parent.
Ah ouais.
Chaque bébé est différent.
Ah, c'est ça.
Ça va glisser. On s'adapte. On s'adapte, on se met pas... On y va faire, on
Non,
se
c'est
met
ça.
plus de flexibilité, on se met pas de pression. On vit une heure à la fois.
C'est ça, chaque minute à la fois.
Je repars avec ça. Je vais aller, quand je vais aller accoucher, je vais dire ça va glisser. Dana me dit que ça va glisser. Ça va glisser. Ah, ben merci vraiment. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé le podcast, puis vous voulez peut-être communiquer avec Dana, je vais mettre ses coordonnées dans la description, les show notes de l'épisode. Et merci aux gars d'avoir été là, c'est le fun. J'espère qu'on vous a laissé toute la place pour pouvoir prendre part.
Oui.
Puis
Ben oui.
peut-être même une autre discussion entre juste papa, peut-être plus tard, là, quand tu vas être papa officiellement, si vous voulez reprendre le micro puis jaser entre papa, s'il y a plein de questions aussi par rapport à la carrière, par rapport au choix aussi de la maternité, tout ça, comme comment est-ce qu'on s'arrange en tant que famille, je pense que ça pourrait être des discussions intéressantes, fait qu'on pourra peut-être se redonner un deuxième rendez-vous rendu là.
Pour remettre mes coordonnées aussi pour la vaisselle puis tout ça, tous ceux qui veulent participer. Écrivez-moi un courriel. Mais non, merci beaucoup, c'était belle fun.
Mais merci à vous pour le partage. C'est vraiment apprécié que vous laissiez une place justement pour qu'on puisse parler de la profession sage-femme. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Puis, je vous souhaite un accouchement à la hauteur de vos attentes. Ouais. Une rencontre en douceur qui va être chargée en amour. Un moment de couple aussi pendant l'accouchement, puis je vais penser fort à vous. Là. Si jamais ça vous dit penser, vous me direz, j'allumerai une petite chandelle pour vous pendant l'accouchement.
C'est gentil. Merci.
Merci à tous.
Salut.
Merci d'avoir été avec nous. Si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager à tes amis ou même dans tes stories en identifiant Mouvement Épanouissement pour que je puisse te remercier personnellement. Si tu veux nous donner de l'amour, ça se fait en activant le 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou sur toute autre plateforme de balado-diffusion. Tu peux aussi nous écrire, envoyer des commentaires, ça nous fait plaisir de pouvoir vous lire, interagir avec vous. Et finalement, si tu veux aller plus loin, découvrir nos ateliers et nos services de consultation privée, tu peux visiter notre boutique au www.mouvementépanouissement.com/boutique. Avec joie, amour et sérénité, Charlène, alias Maman Sereine.